Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient une dernière fois sur les temps forts du débat annuel de l'Assemblée Générale des Nations Unies et les réunions de haut niveau. Autant d'événements qui ont permis d'aborder les préoccupations du moment, qui ont notamment pour nom Sahel, RDC, Syrie ou encore la question du programme nucléaire iranien. Parmi les préoccupations de la 67e session de l'Assemblée Générale, à n'en pas douter, la question du Sahel et l'occupation du nord du Mali ont occupé une place de choix et fait même l'objet d'une réunion de haut niveau. De plus, lors de son intervention à la tribune de l'Assemblée, le Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra a demandé l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'intervention d'une force militaire internationale et ce afin d'aider l'armée malienne à reconquérir et à sécuriser l'ensemble du territoire national. Une démarche qu'il a ensuite justifiée au micro de la Radio des Nations Unies.
Le Mali n'est pas réticent à donner une position pour les forces de la CEDEAO. Le Mali veut simplement que même ces forces de la CEDEAO puissent jouir de l'accompagnement de toutes les forces qui le veulent et qui peuvent nous accompagner. Et c'est pour ça, au lieu de nous limiter à ce problème-là au niveau sous-régional, nous en avons fait un problème international, parce que vous savez que le problème du terrorisme est un problème qui dépasse toutes les frontières, toutes les sous-régions et les régions. Et donc, en internationalisant le problème, rien qu'au niveau du renseignement déjà, cela va nous permettre de comprendre beaucoup de choses dans la structure du problème. Et deuxièmement, tous les pays qui ont les capacités, qui sont des pays africains tels que, n'est-ce pas, le Tchad, tels que l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc, qui ne sont pas de la CEDEAO, mais qui peuvent jouer des rôles importants, il faut trouver un mécanisme justement pour leur donner la légalité dont ils ont besoin pour pouvoir nous accompagner. C'est ce qui a été fait aujourd'hui en déposant une requête sous le chapitre 7.
Autre préoccupation, la situation en RDC, en République démocratique du Congo, avec la recrudescence de la violence imputable aux rebelles du M23. Une situation qui pousse la Belgique et son Premier ministre, Elio Di Rupo, à tout faire pour favoriser le dialogue, notamment entre la RDC et le Rwanda.
D'une manière très claire, la MONUSCO n'a pas failli. D'abord, l'ONU, dans le monde entier, accomplit un travail absolument gigantesque. Et heureusement que nous avons l'ONU. Nous intervenons de deux manières. Nous avons une assistance, coopération au développement, qui est importante en Afrique, en particulier au Congo. Nous continuons. Et nous avons une action diplomatique. La Belgique, son ministre des Affaires étrangères, ne cesse d'avoir des contacts et de tenter de rapprocher des points de vue. Ce n'est pas visible à l'extérieur, mais on ne désespère pas qu'à un moment donné, on puisse mettre ensemble les pays concernés et donc les responsables de ces pays.
Autre intervenant, le président de la transition malgache, Andry Rajoelina, qui a certes demandé l'appui de la communauté internationale, mais en insistant aussi sur la nécessité de respecter la souveraineté de son pays.
Nous sommes un pays en transition, donc un pays en transition, c'est le peuple veut justement développer son pays et espère un avenir meilleur. C'est pour cette raison qu'il y avait eu un soulèvement populaire à Madagascar. Maintenant, pour régler les conflits d'une manière pacifique, Madagascar a bien évidemment besoin de la communauté internationale pour nous aider, pour nous guider. Mais ceci dit, la crise a trop traîné, donc le peuple se sent un peu asphyxié par des solutions qu'on nous dicte de faire aujourd'hui. Ceci dit, moi personnellement, je suis conscient que c'est la seule voie. Maintenant donc, on aimerait qu'on nous aide, mais qu'on nous dicte pas ce qu'on doit faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Madagascar a pu quand même éviter la guerre civile. Nous avons pu développer notre pays pendant la période de la transition. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que nous sommes en transition. On n'a pas reçu de l'aide internationale. Et ceci dit, aujourd'hui, nous voulons notre souveraineté et bien évidemment, nous rendre aussi notre responsabilité.
Autre pays insulaire, mais sur un autre océan, Haïti. Haïti qui dépend toujours de l'aide internationale, encore plus depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Son président Michel Martelly a lui défendu l'idée d'une accélération du processus de reconstruction du pays.
Aujourd'hui, Haïti a un plan. Donc il ne s'agit pas de donner de l'argent, il s'agit d'identifier dans le plan ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait financer. Haïti a un plan. Et dans notre plan, bien sûr, temporairement, on a des projets sociaux désignés à accompagner la population qui aujourd'hui vit certaines crises, par exemple la crise des hausses des prix de première nécessité. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir comme plan un assistanat. Ce n'est pas ça le plan. Donc il s'agit de sensibiliser ces donneurs pour que l'argent vienne à l'État haïtien, que ça passe par le trésor public, qu'il puisse être utilisé là où l'État haïtien aura décidé de l'utiliser.
Bien sûr, la question de la Syrie a aussi été au centre des débats et présente dans toutes les interventions des États membres petits et grands, y compris dans celle de José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures de la principauté de Monaco.
Le gouvernement princier a joint sa voix à celle de ceux qui ont condamné les violences perpétrées tant par les autorités que par d'autres protagonistes en République arabe syrienne où la situation ne cesse de se détériorer. Aussi, je tiens à exprimer tout mon soutien à l'effort et à la détermination du Comité international de la Croix-Rouge de vouloir assurer le déploiement des besoins humanitaires croissants. Il s'agit, sans aucune ambiguïté, de faire respecter par chacun les règles du droit humanitaire international, puisque la simple évidence de l'exigence morale la plus élémentaire envers les populations ne semble malheureusement pas partagée par tous.
Une crise syrienne qui a résonné en écho avec d'autres préoccupations au Moyen-Orient, comme le blocage du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi le risque souligné, croquis à l'appui par le Premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou, de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire.
Depuis plus de 7 ans, la communauté internationale a essayé des sanctions contre l'Iran. Sous la direction du président Obama, la communauté internationale a adopté certaines des plus fortes sanctions prises à ce jour. Je tiens à remercier les gouvernements représentés ici qui ont adhéré à cette initiative. Cela a eu un effet. Les exportations de pétrole ont été freinées et l'économie iranienne a été durement touchée. Il a eu un effet sur l'économie, mais nous devons regarder la vérité en face. Les sanctions n'ont pas pour autant arrêté le programme nucléaire iranien.
Une menace nucléaire qui a aussi été au centre d'une réunion de haut niveau consacrée au risque de voir les terroristes acquérir frauduleusement les moyens de fabriquer une bombe atomique. Une idée que Ban Ki-moon combat de toutes ses forces, comme a pu le constater Jean-Pierre Amissi Ramazani.
Ban Ki-moon a indiqué au début de cette réunion que la possibilité que les terroristes acquièrent du matériel nucléaire est l'une des menaces les plus terrifiantes qu'on puisse imaginer. Selon lui, quelques groupes terroristes ont déjà exprimé ouvertement leurs intentions et espoirs d'acquérir des armes nucléaires, tandis que d'autres groupes seraient en train de travailler discrètement pour parvenir à cette fin. Devant cette situation, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel à tous les États pour qu'ils adhèrent à la Convention internationale pour la suppression des actes du terrorisme nucléaire. Il a demandé aux États de mettre en œuvre cette convention au niveau national et de se conformer aux dispositions de la résolution 1540 du Conseil de sécurité en la matière.
Autre thème abordé dans l'un des nombreux événements parallèles et réunions de haut niveau, l'abolition universelle de la peine de mort, défendue par le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, qui a mis en avant 3 principaux arguments.
Le premier, c'est qu'il est avéré que la peine de mort est inefficace pour lutter contre la criminalité. La deuxième raison, c'est que, par définition, la peine de mort est irréversible. Or, il y a malheureusement des erreurs judiciaires. Cet après-midi, je rencontrerai un Américain qui a été condamné à mort, qui a attendu 8 ans son exécution, avant que finalement, on constate qu'il était innocent. Inefficacité, irréversibilité et puis inhumanité, car nous considérons que la peine de mort, par son principe même, est contraire aux droits de la personne humaine.
Et puis, autre fléau, autre mobilisation, celle contre les mutilations génitales féminines. Un combat mené par plusieurs premières dames africaines en vue de faire adopter par les Nations Unies une résolution sur l'élimination de cette pratique barbare à l'échelle mondiale. Un projet de résolution qui a vu le jour en 2011 lors du sommet de l'Union africaine à Malabo et qui depuis est défendu notamment par les épouses des présidents du Bénin et du Burkina Faso, Chantal Dessouza Yahi et Chantal Compaoré. Cette dernière explique pourquoi cette pratique dangereuse pour la santé des femmes, cette pratique ancrée dans la tradition, doit être abandonnée.
Quand vous voyez ce qui se passe avec les mutilations génitales féminines, c'est quelque chose qui est inexplicable. Et c'est quelque chose où la femme est vraiment mise dans des conditions les plus pitoyables. Et donc, pour moi, c'est un engagement personnel pour les aider, pour aider notre communauté, la communauté africaine, le Burkina Faso aussi, à faire disparaître les mutilations génitales féminines chez nous. Parce que c'est un problème de santé publique. Sans adoption, les États font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés. Or, avec cette résolution-là, ils seront obligés d'amener leur population à ne plus exciser les filles et les femmes. Et donc pour nous, cette résolution-là est très importante pour le futur, bien sûr, des MGF et aussi de la santé de la femme et de la fille.
La situation des petits États qui constituent une grande partie des pays membres de l'ONU a également fait l'objet de toutes les attentions. Lors d'une réunion de haut niveau le 1er octobre, organisée à l'occasion du 20e anniversaire du Forum des Petits États, en présence entre autres de Vuk Jeremic, le président de l'Assemblée générale, et de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a mis l'accent sur l'aide qu'apporte l'ONU à ses États pour les aider à relever les nombreux défis, notamment par rapport à la mondialisation, faire face à leurs vulnérabilités et conforter leurs efforts pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. On écoute Ban Ki-moon.
Les petits États auront besoin d'une attention spéciale. C'est pourquoi les Nations Unies et moi-même personnellement accordons une grande priorité depuis quelques années aux préoccupations des petits pays vulnérables. Le système des Nations Unies appuie les petits États dans leurs efforts pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, en les aidant à faire face à leurs vulnérabilités, à renforcer leurs capacités, construire des infrastructures, promouvoir les ressources humaines, relever les défis et saisir les opportunités de la mondialisation.
Autre événement parallèle, la présentation de la série de films et documentaires produite en collaboration avec la BBC et notamment plusieurs télévisions scandinaves, série intitulée « Pourquoi la pauvreté ?». Une série d'une quarantaine de documentaires diffusés par 62 chaînes de télévision nationales à partir de novembre. Ces retransmissions seront accompagnées d'événements conçus pour susciter des débats sur le plan international et national, y compris une campagne en ligne pour inciter les gens à se poser la question « Pourquoi la pauvreté ?», comme l'explique l'un des producteurs exécutifs de la série, Nick Fraser.
Ce que nous essayons de faire, c'est de jeter un regard sur l'état du débat sur la pauvreté dans le monde contemporain. On n'essaye pas d'avoir des solutions, mais de poser des questions. Et tous les films sont des reportages ou des documentaires où on a suivi les personnages du documentaire pendant assez longtemps. Je crois qu'il faut savoir faire regarder les gens la réalité ou faire écouter les gens, les voix des gens qu'on appelle pauvres, qui sont dans un état de pauvreté, mais qui restent aussi intéressants que les gens très riches ou les gens d'une moyenne richesse. Et je trouve qu'on est à un moment historique où le regard sur la pauvreté change rapidement. Les gens qui connaissent, qui ont passé beaucoup de temps à regarder ce qui se passe dans les communautés pauvres, changent leur perspective sur ce qu'on doit faire.
Enfin, côté chiffres, laissons le dernier mot à Yann Eliasson, le vice-secrétaire général des Nations Unies. Devant la presse, il a indiqué que plus de 75 chefs d'État, 40 ministres, des dizaines de représentants d'organisations régionales, de la société civile, du monde des affaires, de philanthropes, d'ambassadeurs de bonne volonté et autres ont pris part à la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale. Champion toute catégorie, le secrétaire général Ban Ki-moon, qui a participé à 150 réunions et 50 événements parallèles, allant de l'énergie pour tous à la sécurité alimentaire. Voilà, c'est ainsi que se referme Escale, le magazine de la radio des Nations Unies, consacré cette semaine au 67e débat de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Escale présentée par Jérôme Longuet et préparée cette semaine avec la collaboration de Jean-Pierre Amissi Ramazani, de Christina Silvero, de Maha Fayek et de Florence Westgaard. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.